Alors, c'est un mouvement dont depuis une trentaine d'années on nous dit qu'il n'existe pas, qu'il résulte de l'imagination fertile des deux extrêmes. Vous connaissez ce concept, il est très à la mode aujourd'hui. Communistes et fascistes auraient après-guerre expliqué que la formule de Vichy devait beaucoup à un complot de la synarchie. Ce serait des broutilles, des inventions et... par conséquent, il n'y aurait pas lieu de s'attarder sur cette affaire. Un livre y a été consacré, entre autres, un livre assez récent d'Olivier Dard qui s'appelle « Le mythe de la synarchie ». Et Olivier Dard s'est appuyé sur un article d'un historien américain, d'ordinaire d'ailleurs mieux inspiré, qui s'appelle Richard Kuzel, et qui lui aussi avait parlé de « mythe de la synarchie ». La synarchie, c'est un groupe d'hommes qui a reconstitué, je passe les aspects folkloriques, une sorte d'organisation secrète qui a refait surface, qui était préexistante, en fait, qui a refait surface en 1922. Elle était constituée à l'origine de 12 hommes, dont je fournis la liste. Il n'y en a que 11, il y a un 12e mystérieux. Et elle était centrée autour de trois grands groupes. D'une part, la banque Vance, d'autre part, la banque Le Hideux, enfin, la banque d'Indochine, c'est-à-dire des banques qui semblent plus ou moins grandes, dont deux étaient considérables, la banque Vance, énorme banque d'affaires, et la banque d'Indochine, énorme banque qui dominait l'ensemble du marché indochinois. Il faut y ajouter, évidemment, une autre nébuleuse, ces hommes qui ont fini par rassembler une petite trentaine de gens vraiment décisifs dans les années 30, et je donne une liste, hein, parce que ça ressemble un peu à un bottin, mais il y a quand même un noyau de 12 ou quelques dizaines d'hommes très importants. Ces hommes que les institutions françaises ne satisfaisaient pas ont décidé à partir des années 20 de doter la France des institutions qu'ils estimaient opportunes, c'est-à-dire d'institutions susceptibles d'empêcher les salariés de se défendre. Et ce sont ces hommes dont on nous explique depuis si longtemps qu'ils n'existent pas, qui ont joué un rôle déterminant dans les premiers complots contre la République des années 20, un rôle encore plus déterminant dans les complots des années 30, et je dis bien que ce sont des complots pour liquider la République, et qui se sont associés les ligues, même les partis dits modérés d'ailleurs, puisque entre les partis modérés et les ligues fascistes dans les années 30, le distinguo n'est même pas subtil, il est inexistant. Et c'est donc cette synarchie qui, lorsque les ligues et groupements fascistes se sont regroupés en 1936, j'insiste, avant les grèves, en cagoule, ce sont ces hommes qui se sont donné un véritable bras armé, et c'est ce bras armé qui a permis de dégager et de surtout faire triompher la formule qui avait été élaborée dès 1934, la formule, si je puis dire, définitive de ces divers complots contre la République, c'est-à-dire une formule gouvernementale qui était centrée autour de deux hommes qu'on a retrouvés en 1940, décidé, j'y insiste, en 1934, à l'époque du gouvernement Doumergue, c'est-à-dire la formule Pétain-Laval, qui commençait à triompher dans des circonstances particulières. Et donc mon ouvrage, ce sont les circonstances particulières qui expliquent cette décennie de plans et complots, puisqu'il faut tout de même bien les appeler comme ça, c'est cette décennie qui présente évidemment des aspects intérieurs et des aspects extérieurs majeurs. Hein, puisque il était très difficile de liquider en France la République. C'était tellement difficile qu'il était mieux de s'assurer des appuis extérieurs. Et ces appuis extérieurs ont été définitivement trouvés avec la défaite de la France de mai 1940, et pas de juin d'ailleurs, de mai 1940. Évidemment, les archives, et j'ai travaillé sur des archives extrêmement diverses, nous donne une image de la réalité française absolument contradictoire avec celle à laquelle nous sommes habitués. Je dirais même qu'on ne parle pas de la même chose. Pour la quasi-totalité de la population, et je dois dire évidemment l'historien inclus, avant qu'il ne découvre les dossiers, un gouvernement, ça se prépare dans des conditions diverses, mais enfin un gouvernement, ça n'existe que en régime parlementaire, parce qu'un parlement lui donne son acceptation, l'agré, procède à son installation. Eh bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Depuis Bonaparte, qui a fait à la France des institutions qui consacraient bien la victoire de la bourgeoisie, depuis Bonaparte et la création de la Banque de France, c'est donc une assez vieille affaire, la Banque de France a reçu le moyen de gouverner les gouvernements. De façon très simple, chaque gouvernement dépend des avances de la Banque de France, qui est un club de banques privées, de la grande banque, de ce qu'on appelle la grande banque. Et donc, lorsqu'un gouvernement est pressenti, dans des conditions évidemment qui éclairent aussi les archives, eh bien, avant de se présenter devant le Parlement, il se présente devant ce qu'on appelle le gouvernement de la banque, c'est-à-dire le petit noyau des plus grands banquiers, les régents de la Banque de France, parmi lesquels on comptait, dans la période qui nous occupe, François de Vindel, qui était un des maîtres des dynasties sidérurgiques de la France. Il y en a deux essentiels en Lorraine, les Laurent et les Vindel, il y en a dans le Creusot, les Schneider. Bon, voilà, on a l'essentiel, puisque ça ne ressemblait ni à la boutique ni à l'échoppe, que ces hommes s'étaient dotés d'institutions qui s'appelaient le comité des forges dès les années 1860, et que donc François de Vindel réussissait ce magnifique doublé d'être à la fois le président du comité des forges, aussi rue de Madrid, donc quand vous trouvez quelque part rue de Madrid, c'est le comité des forges en général, et d'être régent de la Banque de France. Et donc premier ministre pressenti, accompagné de son ministre des Finances, car tout à l'heure Roger a cité des ministères dans lesquels le grand capital détenait des hommes, mais enfin, aux finances, ma foi, il détenait bien entendu des places essentielles. Et le gouvernement, qui donc dépendait des bontés de la Banque de France, qui lui accordait ou ne lui accordait pas ses avances, le gouvernement venait promettre au gouvernement de la Banque de France, le futur gouvernement, de faire un bon usage, bien économe, des deniers, puisqu'un État, c'est bien connu, c'est toujours impécunieux, que ça a toujours tendance à laisser filer les salaires et autres. Et il promettait donc d'appliquer l'assainissement financier qui était la clé de l'octroi des dites avances. J'insiste sur le fait qu'il promettait. Et que Herriot en 1924 et Léon Blum en 1936 ont promis. En 1924, on a aidé Herriot à tenir sa promesse, mais on lui a fait des grosses difficultés, bien qu'il ait tenu sa promesse. Et en 1936, Blum était assurément disposé à tenir sa promesse, mais comme vous le savez, c'est une marée humaine qui, à partir de mai-juin 1936, a rendu la tenue de cette promesse absolument impossible pour l'immédiat. J'insiste beaucoup sur le fait, je sais bien que ça choquera beaucoup, mais je pense qu'au vu des archives que je produis, ce sera difficile de contester. J'insiste beaucoup sur le fait que le gouvernement de la France ne gouvernait rien, mais que la Banque de France gouvernait le gouvernement. Et qu'en France, il ne date aucunement d'aujourd'hui que les banquiers et les industriels gouvernent le gouvernement. C'est-à-dire que le thème fort à la mode, depuis un certain nombre d'années, selon lequel on ne peut rien faire parce qu'autrefois les gouvernants gouvernaient, alors qu'aujourd'hui ce sont les banquiers internationaux qui gouvernent, est un thème qui correspond à une réalité absolument pas neuve. La différence entre la situation d'aujourd'hui et la situation de ces années 30 a tenu naturellement aux réactions de la population et pas à autre chose. Donc, si vous voulez, mon livre, entre autres choses, parce que c'est vrai qu'il me semble neuf sur des tas de questions, mon livre, entre autres choses, affirme que la France a fonctionné comme une dictature de la Banque de France, mais une dictature que la Banque de France a trouvée trop douce, précisément parce que la population était en mesure de s'y opposer de temps à autre. Et c'est pourquoi la Banque de France a trouvé que des institutions nouvelles, qui ressembleraient à celles que l'Italie avait admirablement constituées, puis qui ressembleraient à celles que l'Allemagne avait encore mieux constituées, que des institutions nouvelles feraient beaucoup mieux l'affaire qu'une république qui laissait subsister des moyens de défense fâcheux pour le maintien des salaires ou en tout cas leur maintien vaille que vaille. Je me suis opposée à beaucoup de mes collègues qui sont convaincus que les hommes de l'industrie et de la banque sont assez peu politisés. Ils aiment beaucoup leurs entreprises, ils s'y sont fort attachés, ils développent une sorte de patriotisme d'entreprise, mais la politique c'est une affaire sans importance qui au fond ne les intéresse guère. Je suis en formel désaccord avec cette analyse. Et je tire des archives, y compris évidemment de ces organismes, la conviction que ces hommes sont beaucoup plus politisés que la moyenne des hommes, entendu au sens général du terme, naturellement générique du terme. C'est-à-dire qu'il s'agit bien entendu de catégories qui sont hyper politisées, puisque de l'évolution politique dépend le maintien de leur statut, de leurs privilèges, etc. Par conséquent, l'aspect technique, l'espèce de légende que la Banque de France et les industries voudraient établir sur le fait que toutes les décisions qui sont prises sont toujours des décisions techniques et obligatoires, cet argument est un argument non pas seulement erroné, mais faux, et développé de façon bien entendu volontaire et par conséquent mensongère. En effet, la Banque de France, comme les industries, considère que tel pays, telle catégorie sociale se comporte comme on l'attend ou comme on ne l'attend pas. La Banque de France appréciait beaucoup l'Espagne dictatoriale d'Alphonse XIII. C'était une Espagne qui ressemblait un petit peu à la Russie d'avant 1917, à ceci près que l'Église n'était pas orthodoxe mais catholique. C'était une Espagne qui datait quasiment du XVIIIe siècle, mais qui avait cette caractéristique, donc où l'Église possédait une grosse partie de la terre, les propriétaires fonciers non cléricaux, enfin non clercs, pardon, parce qu'ils étaient cléricaux, possédaient le reste, et ce qui faisait beaucoup ressembler aussi l'Espagne à la Russie, était le fait que le secteur moderne de l'activité reposait à peu près exclusivement dans les mains de l'étranger. On le sait pour la Grande-Bretagne qui possédait les mines, qui possédait les chemins de fer et diverses autres choses. On le sait un peu plus, on le sait aussi pour les Américains qui commençaient depuis les années 20 à posséder de plus en plus de choses et notamment la totalité du téléphone espagnol depuis 1924. On le sait moins pour la France qui possédait aussi beaucoup de choses, notamment un certain François Pietri qui était administrateur de la Surienne des Mines. Et ces étrangers avaient obtenu de la dictature d'Alphonse XIII, sous la monarchie, puis de la République depuis 1931, des prébendes qui n'étaient jamais remises en question et qui violaient d'ailleurs toute la législation limitant éventuellement le capital étranger, par exemple dans la détention des mines. En 1931, la République espagnole, qui n'était pas une république très progressiste, mais qui tout de même tenait à un moment donné à rester républicaine, avait déposé une partie de ses avoirs, et même une partie notable de ses avoirs, en France. Plusieurs dizaines de tonnes d'or avait été remis à la Banque de France et déposé dans les serres c'est les caves, c'est le terme pour la Banque de France, dans les serres de Mont-de-Marsan. La Banque de France trouvait ça excellent, c'était le seul pays qui en cette époque de crise nous eût déposé des dizaines de tonnes d'or, l'Espagne faisait donc une partie de son commerce international grâce à ces tonnes d'or et tout le monde était content. Jusqu'en 1933-1934, où la République espagnole est devenue une République très droitière, qui a commencé à assassiner ses ouvriers, qui les a même assassinés franchement en 1934, et puis ça n'a pas suffi pour écraser les masses populaires, ça les a, pourtant on les a fort douchés, ça a fait plus de 1000 morts, ça a fait des milliers de blessés. Il y a un certain général Franco avec ses petits camarades qui a été affecté à l'affaire d'ailleurs, mais ça n'a pas suffi pour calmer une population espagnole exaspérée par le statut de la terre, exaspérée par la crise. Et donc, cette gauche a continué à se développer, certes très divisée, mais elle a réussi à s'unir pour les élections. Et la Banque de France le savait, qui en 1935 a commencé à froncer le nez en faisant observer que cette Espagne qui jusqu'ici était bien satisfaisante ne l'était pas, et puis que bien sûr on avait réprimé comme il fallait, mais que ça risquait de ne point suffire. Enfin, vous voyez, elle était très préoccupée. Alors ma foi, ça a duré tout ça jusqu'aux élections de Front Populaire, vous le savez, la victoire du Front Populaire en Espagne en février-mars, et alors là, la Banque de France a commencé à serrer la ceinture, c'est-à-dire à ne plus vouloir traiter d'opérations avec la Banque d'Espagne, qui n'avait encore rien bolchévisé, ni même nationalisé, rien. Enfin, l'Espagne se tenait tranquille, elle respectait même les capitaux étrangers. La République espagnole n'a pas touché un cheveu, si je puis dire, de capitaliste étranger, et n'a pas touché un gramme de capital étranger tout au long de sa courte vie. Et donc, la Banque de France a commencé à faire pression pour que, l'Espagne républicaine fut en difficulté, cette nouvelle Espagne républicaine. Elle a fait d'ailleurs comme les autres capitalistes étrangers qui ont commencé à guerroyer contre l'Espagne. C'est une guerre qui n'est pas connue, mais que un excellent historien américain qui s'appelle Douglas Little a déjà très bien décrit. Et alors, je vous passe le détail, mais quand même, vous me direz, mais la Banque de France, elle a été réformée à l'été 1936. C'est une réforme qui n'a strictement aucune portée, je l'explique, me semble-t-il, de façon argumentée, mais qui a permis, cependant, que l'Espagne, tout en étant traitée très mal par le premier Front Populaire, que l'Espagne utilisa une partie de son or, non pas en achetant des produits à la France, car il faut le savoir, la France du Front Populaire, la France du premier Front Populaire a fermé les frontières. Depuis le début de 1937, la frontière était déjà rigoureusement fermée. On ne lui a rien vendu, on ne lui a même pas vendu de médicaments, il y a une légende, c'est pas entièrement une légende, il est bien passé quelques petites choses, mais quand même très peu de choses. Ça ne convenait pas à la Banque de France. La Banque de France a donc d'abord, avec tous ses pairs de l'industrie, obtenu la chute du gouvernement Blum, qui était bien complaisant, mais pas assez cependant. Sur cette affaire espagnole, elle a trouvé que son gouverneur, qui avait été correct à certains égards, c'est-à-dire qui avait permis à l'Espagne de conduire normalement des opérations qui étaient internationalement normales. Cette Banque de France s'est donc arrangée pour que le gouverneur disparu, il a été remplacé par un certain Fournier, Pierre Fournier, qui pendant la guerre est devenu le président de la SNCF, et donc sous l'occupation, et la Banque de France à ce moment-là a fait plus fort, c'est-à-dire qu'elle a interdit à l'Espagne républicaine de disposer de son or qui était déposé en France. Interdit. Elle a donc interdit la Banque d'Espagne, de l'Espagne républicaine, a dit, bon, ben, écoutez, puisque c'est comme ça, laissez-moi récupérer mon or. Et la Banque de France s'est engagée dans une sorte de course ou de jeu qui a consisté à dire aux républicains, ah, écoutez, là, on ne peut plus rien faire. C'est impossible parce que, figurez-vous, il y a une deuxième Banque d'Espagne. À Burgos, c'était naturellement la Banque d'Espagne de qui vous savez. Et, ah, dit la Banque de France, il faut que je confie ça aux tribunaux. Ça a duré, je vous passe le détail, il est compté en un certain nombre de pages dans le livre, parce que l'affaire est tellement énorme que je me disais quand même qu'il fallait l'expliciter. Tout ça a duré pendant que la Banque de France préparait ce qui était son objectif, c'est-à-dire un cadeau de joyeux avènement à Franco, dont elle souhaitait vivement la victoire, qui consisterait en la remise de l'or que l'Espagne républicaine n'est pas de Front Populaire, de 1931 avait remis au bon soin de la France, ce qui a été fait, de telle sorte que, mais ça a été fait dans des circonstances qui méritent attention, parce que on a mis ça sur le dos des gouvernements. Et la Banque de France a voulu, elle adore les papiers du gouvernement, la Banque de France. La Banque de France a voulu que le gouvernement assurât par papier qu'en effet, elle avait bien écouté le gouvernement qui lui avait ordonné de remettre à Franco l'or qui la garantissait contre absolument toute réclamation. Elle recommencerait, hein, elle a fait le même coup pour la Banque de Belgique. Et par conséquent, lorsque le gouvernement de la République française a passé avec Franco, début février 1939, un accord fort célèbre pour les milieux qui s'y intéressent, qui s'appelle l'accord Bérard-Jordana. La première clause de cet accord a été que la République française rendit au nouveau régime espagnol l'or de la République. Ce qui a été fait en juillet 1939, si vous êtes curieux, vous pourrez aller chercher aux archives de la Banque de France le détail à la pièce près. Tout a été remis dans les sacs et cartons, etc., sous l'égide de la Banque de France. Il faut évidemment, vous vous en doutez, imaginer pourquoi Franco était pressé. C'est que l'Allemagne était aussi pressée que lui. L'Allemagne avait en effet, comme l'Italie, mais l'Allemagne parlait plus fort et avait les moyens de parler plus fort encore. L'Allemagne était très pressée que l'or parvint à Franco, car l'Allemagne avait apporté à Franco une aide qui n'était pas gratuite. Et l'Allemagne qui manquait d'or, mais que la Banque de France allait aider, comme la Banque d'Angleterre a gagné encore un peu d'or, l'Allemagne donc exigeait d'être payée en or pour les fournitures qui étaient indispensables pour la victoire de Franco. Et me direz-vous, peut-être la Banque de France ne s'en était-elle pas avisée? Bien entendu, elle s'en était avisée, et tel banquier a fait remarquer au moment de la restitution de l'or qu'il était peut-être gênant que l'or fut remis à Franco, qui en allait remettre une grosse partie immédiatement aux puissances de l'Axe. Eh bien, ça a été fait. C'est donc une sorte de véritable exploit de la Banque de France, demeuré secret à toute la population, qui a contribué à ce que l'Espagne républicaine mourût, comme bien d'autres choses avaient contribué à sa mort, mais qui a contribué à ce qu'elle mourût, car la République espagnole n'est pas morte sur le plan militaire. Franco n'avait pas encore remporté la victoire à l'automne 1938. Elle est aussi morte parce qu'elle est morte de faim, et que le gouvernement espagnol républicain n'avait plus de quoi payer, de quoi faire manger sa population. On doit donc constater que la France, y compris la France du premier Front Populaire, ne s'est pas contentée de ne pas soutenir l'Espagne, qu'elle a accepté que la Banque de France demeurait aussi puissante qu'elle l'était jusque-là, contribua à la mort de l'Espagne, à la liquidation de l'Espagne, et par conséquent à la liquidation d'un obstacle décisif contre l'avancée du Reich, y compris aux frontières du nord-est de la France, c'est-à-dire contre la France. Alors il faut savoir que l'or, le reste de l'or espagnol, une partie considérable était en Angleterre. L'Angleterre a donc agi de même. Et en ce qui concerne l'or autrichien et l'or tchécoslovaque, l'or était à Londres, physiquement à Londres. Alors me direz-vous, c'est encore un coup de la gouvernante anglaise, ou de la banque, donc de la Banque d'Angleterre. Eh bien, point du tout ou point exclusivement. Puisqu'il fallait, pour que l'Allemagne eût la propriété juridique internationalement reconnue, de l'or autrichien d'abord après mars 1938, de l'or tchécoslovaque ensuite après le 15 mars 1939, il fallait que dans le cadre du club des banques centrales que constituait la Banque des règlements internationaux, il fallait que ces banques centrales eussent accepté non seulement cette propriété juridique, mais je le rappelle, le transfert de l'or, ce qui a été fait. L'Allemagne nazie a donc pu détenir d'abord l'or autrichien, ensuite l'or tchécoslovaque, qui ont été donnés à cette Allemagne hitlérienne qui préparait la guerre dans des conditions que chacun dans ces milieux connaissait, avec donc l'aval de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France. Le phénomène est connu pour la Banque d'Angleterre, il a provoqué des scandales tout de suite, puis des révélations à peu près globales, totales, en 1942, parce que là on a parlé. Hein. En France, la chose était demeurée totalement inconnue. Vous voyez donc qu'on n'a pas grand motif à se demander si les élites françaises voulaient ou non la guerre avec l'Allemagne. Si elle voulait la guerre avec l'Allemagne, ne disposerait-on que de ce dossier, elle voulait la guerre avec une Allemagne fort enrichie par les dépouilles que la France l'avait aidée à accumuler. Ce que je viens de vous dire vous donne à penser que les milieux dirigeants britanniques et français ne tenaient pas tellement à résister à l'Allemagne. Alors vous me direz peut-être ne tenaient-ils pas à faire la guerre? Voulait-il éviter la guerre? C'est ce qu'on répète dans les manuels, hein, on dit plus que jamais, finalement, les populations, l'opinion publique qui a bon dos, l'opinion publique aimait la paix, parce qu'ailleurs elle aimait la guerre, et notamment en Allemagne, forcément elle aimait la guerre, elle n'avait pas souffert de la guerre en Allemagne, donc tout le monde aimait la paix, et finalement, après tout, on pouvait éviter la guerre, bon, l'Allemagne... On savait qu'elle voulait la guerre, mais si elle s'était fait les dents sur l'Union soviétique seule, enfin voilà, on pouvait être épargné. On dit ça de temps en temps, hein. On se trompe. On se trompe parce que personne ne pouvait, ni en France ni ailleurs, ignorer que l'Allemagne voulait faire la guerre à tout un chacun. Exactement dans les conditions où Hitler l'avait dit, non pas seulement parce qu'Hitler faisait la loi, Hitler ne faisait pas la loi face au grand capital allemand, ça c'est une légende. Parce qu'Hitler a été mis là précisément parce que le grand capital en attendait, dans les conditions de la crise, un règlement par la guerre. Et donc on savait parfaitement qu'il n'y aurait pas seulement une guerre à l'Est, mais qu'il y aurait une guerre à l'Ouest. Et ça m'amène à compléter quelque chose que disent mes collègues anglo-saxons, l'un en particulier, qui est d'ailleurs excellent, qui s'appelle Michael Carley, qui a fait un très bon bouquin traduit en français, 1939, l'Alliance qui n'a pas pu se faire. Il dit que la guerre, il dit que l'anticommunisme, la violence de l'antisoviétisme a été un facteur essentiel de la Deuxième Guerre mondiale parce que, pense-t-il, la France et l'Angleterre avaient très bien vu que l'armée soviétique était une armée fort puissante malgré les récits contraires qui en étaient faits aux opinions publiques. Et la France et l'Angleterre, comme tous les pays demeurés capitalistes, c'est-à-dire tous les autres, pensaient que dans ces conditions, on pourrait remporter une guerre, par exemple en 1938, on pourrait remporter une guerre dont l'Union soviétique serait le principal artisan, étant le principal artisan, par conséquent le principal vainqueur, elle pèserait sur la paix dans des conditions fâcheuses. Donc Carley, il pense que c'est par antisoviétisme. France et Angleterre ne se sont pas préparés à lutter contre cette guerre, j'y insiste, inévitable. Il y a d'autres choses. Je pense que, je ne dirais pas l'élément essentiel, mais un élément aussi essentiel, ce sont les relations que le grand capital avait en Angleterre comme en France, tissées avec le grand capital allemand. L'Allemagne était devenue un énorme débiteur. Énorme débiteur, dont la mise en défaut eut provoqué et a failli provoquer l'ébranlement, l'écroulement du capitalisme en 1931. Ces pays menaient avec l'Allemagne des relations commerciales et économiques fort intéressantes aussi. Comme leurs élites ne voulaient pas faire la guerre, leurs élites ne réarmaient pas, par contre l'Allemagne réarmait, et ma foi, on avait investi dans cette Allemagne, où on vendait à cette Allemagne le fer avec lequel on ne fabriquait pas des canons, l'aluminium, la bauxite avec laquelle on ne fabriquait pas l'aluminium qui permettait de fabriquer des avions. Par conséquent, ces milieux tenaient comme à la prunelle de leurs yeux à ses relations avec l'Allemagne, tenaient en particulier à ce que l'Allemagne continuât à payer les fameux emprunts d'Ose et Jung, parce que vous avez beaucoup entendu parler des réparations. Les réparations sont mortes, mais les emprunts d'Ose et Jung, jamais. Les emprunts d'Oseyoum ont été payés, le dernier envoi date de mai 1945, en or volé, en pleine connaissance de cause de toutes les banques internationales, et ça c'est notamment l'affaire de la Banque de Belgique. Donc, ces gens ne voulaient pas la guerre avec l'Allemagne. Ce qui était dommage évidemment, c'est que l'Allemagne voulait la guerre. Donc comment faire pour la détourner? C'était à peu près impossible. Alors il y avait évidemment une parade qui était de s'arranger pour que la guerre fût portée à l'Est. Bon, ça c'était pas difficile, l'Allemagne n'avait pas besoin de la France ou d'autres pour avoir l'idée de porter la guerre à l'Est. Ça ne suffisait toujours pas. Donc on n'a pas réarmé, mais moi je dirais que la première capitulation centrale des classes dirigeantes françaises, c'est même pas les années 30, c'est 1924, c'est-à-dire le plan d'Oze. Après le plan d'Oze, on était rallié à une stratégie de compromis qui ferait que tout serait évité pour éviter, proscrire un conflit avec l'Allemagne qui passa par l'abandon des plans d'Oseyoum, etc. Bon, ça s'est aggravé dans les années 30. Plus l'Allemagne réarmait, et elle a beaucoup réarmé avant l'heure officielle du réarmement, il faut le savoir, elle n'a pas attendu 1933 pour réarmer. Enfin, à partir de 1933, elle a réarmé avec une vigueur naturellement jamais atteinte jusque-là. Donc, qu'a-t-on fait? On n'a rien fait. Rien du tout. Les chefs de l'armée ont continué à mener la guerre contre les subversifs, qui ne bouleversaient rien du tout d'ailleurs, et même de moins en moins à partir de 1935. Mais l'état-major a littéralement, lui aussi, participé de ce sabotage. Le capital n'a pas réarmé, je montre concrètement comment le capital refusait de fabriquer, en invoquant divers motifs, que le marché n'était pas intéressant, il l'avait trouvé très intéressant avant 1914 et de 1914 à 1918. Et l'Allemagne réarmait toujours. Alors, ma foi, c'est allé de mal en pis. Lorsque la France a capitulé, et j'explique comment elle a capitulé, c'est passé par des choses bien importantes, a capitulé dans la Sarre et a laissé l'Allemagne récupérer la Sarre comme il se devait, Hitler a ricané, il a bien fait, il a dit, ils ont perdu la dernière occasion de faire une guerre préventive. Il avait tort, il y en avait encore, même pas des guerres préventives d'ailleurs, d'imposer à l'Allemagne une guerre avant qu'elle ne fût en mesure de la gagner. Donc les choses ont continué, et comme vous le savez, elles ont pris en 1938 un tour dramatique, puisqu'en 1938, ma foi, l'Autriche est passée dans l'escarcelle allemande, les élites françaises savaient que c'était fait ou presque fait depuis 1926, elles n'avaient pas avisé leur population, et lorsqu'on est arrivé en 1938, elles n'étaient même pas prêtes à lever le petit doigt. Et il faut le dire, le premier front populaire non plus. Alors me direz-vous, mais quand même, la Tchécoslovaquie, on l'aimait beaucoup, on l'aimait énormément, c'était notre allié chéri, on a tout fait pour elle. Point du tout. D'une part, il est clair que ce n'est pas seulement en 1935 que la France avait renoncé, vous savez que c'est aussi en 1936, c'est-à-dire quand l'Allemagne a non pas occupé la Rhénanie, puisque la Rhénanie était demeurée allemande, mais lorsque l'Allemagne a remilitarisé officiellement la Rhénanie. Flandin a d'ailleurs prévenu les Allemands, qui étaient à ce moment-là à la tête de l'État, a prévenu les Allemands le 6 que le 7, ils seraient pas là, comme ça ils pourraient pas faire de déclaration, ils pourraient pas les déranger. Je le tiens des archives allemandes. Le réarmement de la Rhénanie s'est fait, la remilitarisation, pardon, de la Rhénanie s'est fait. Tout le monde savait évidemment qu'avec le réarmement de la Rhénanie, une chape de plomb pesait désormais sur la France. D'une part parce que l'Allemagne allait établir des fortifications, de sorte que la stratégie défensive ne servait littéralement plus à rien, hein, puisque face à la ligne Maginot, il y aurait une ligne allemande, la ligne Siegfried, sur laquelle on devait aller prendre notre linge, comme on avait expliqué au moment de la drôle de, comme on a expliqué ensuite au moment de la drôle de guerre. Et les petits alliés ont très bien compris, les petits alliés de l'Est, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris, ils étaient intelligents comme tout le monde, ils avaient particulièrement bien compris que, puisque la France ne bougeait même pas pour défendre ses frontières, et pour se gagner deux ou trois jours de temps de mobilisation, elle ne bougerait pas pour défendre leurs propres frontières. Et Benesch, le dirigeant de la Tchécoslovaquie, qui était alors ministre des Affaires étrangères, qui est devenu plus tard président de la République, a fait l'imbécile, il a fait l'imbécile jusqu'en 1938. Mais il a très bien compris les choses et en privé, il a expliqué que les choses étaient presque définitivement bouclées. Et donc je disais qu'il restait quand même des occasions. Je reviens à 1938, l'Autriche tombe. Je vous signale que l'Autriche qui tombait, on savait depuis 1918, c'était écrit dans tous les, je dirais, à peu près dans tous les papiers diplomatiques et militaires, une fois que l'Autriche tombait, la Tchécoslovaquie tombait dans les semaines suivantes, ou dans les mois suivants, au pire. Hein? Bon. Donc on l'avait écrit, hein? Mais on ne le disait plus, enfin on ne l'écrivait plus. Donc ça a été le temps de la Tchécoslovaquie. Et les Français ont fait semblant de concéder à la gouvernante anglaise qui le leur demandait le sacrifice de la Tchécoslovaquie. Dès novembre 1937, hein, je rends compte d'une réunion qui a eu lieu entre Français et Anglais où les Français ont accepté la liquidation de la Tchécoslovaquie en faisant à peine de manière. Les choses, vous le savez, se sont faites dans de telles conditions qu'en 1938, formellement, il restait des possibilités d'éviter la guerre ou en tout cas d'infliger une déculottée à l'Allemagne qui savait qu'elle aurait cette déculottée, telle que l'Allemagne pouvait être tentée de ne pas déclencher la guerre. Elle n'était pas en mesure de la déclencher en 1938. Je ne vous donne pas le détail ici, ça viendra peut-être dans la conversation. Je dis et je maintiens, comme tous les papiers civils, diplomatiques et militaires l'ont affirmé en 1938, que en 1938, il était hors de question pour l'Allemagne de faire la guerre, donc lui éviter une guerre en 1938, était naturellement la mettre en mesure de poursuivre l'effort de réarmement qui n'était pas au point. Par exemple, les fortifications de la ligne Siegfried n'étaient pas sèches, au sens physique du terme, à l'automne 1938. Par conséquent, on lui a laissé les mois supplémentaires et on est entré dans les circonstances qui ont donné lieu à la plus extraordinaire hypocrisie, l'entrée en guerre générale. Il n'était plus possible de faire autrement puisque malgré ses simagrées et ses offres diverses et répétées, l'Allemagne voulait continuer à faire la guerre et qu'après la Tchécoslovaquie devait venir le temps de la Pologne. Par conséquent, on peut dire avec Carlet que, sachant qu'il y aurait une guerre, les élites dirigeantes ont souhaité ne pas mener cette guerre, ne pas conduire cette guerre. Et en ce qui concerne la France, le cas de l'Angleterre est un petit peu différent. On fait en sorte que cette guerre fut conduite dans des conditions où la France serait vaincue. Vous me direz que c'est une affirmation bien audacieuse. Vous imaginez évidemment que c'est une des raisons pour lesquelles, avec d'autres affirmations bien audacieuses, j'ai dû faire un livre assez gros, parce que c'était des affirmations tellement exorbitantes de l'idéologie commune ou de l'historiographie dominante, bien entendu, qu'on était en droit de me demander des comptes. J'ai donc fourni ces comptes. Le sabotage de l'accord avec l'Union soviétique s'explique évidemment par la décision à toute force de ce compromis avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que très vite, un certain nombre d'hommes politiques ont été convaincus, tout simplement parce que ça relevait du bon sens, certains hommes politiques, je ne parle pas évidemment de la gauche communiste, on pensait qu'il fallait quand même être sérieux, qu'on allait enregistrer une guerre comme en 1914 et que même si on n'aimait pas les soviets, il y avait une règle absolue relevant du simple bon sens qui consistait en cas de guerre face à 200-300 divisions allemandes, diviser les forces de l'Allemagne. Ça supposait pas d'aimer les bolcheviques, hein, ça supposait de préférer que l'Allemagne eût contre elle des forces russes de telle sorte que la France n'aurait que, je sais pas moi, 100 ou 150, voyez, 100 divisions au lieu de 200 au début. Bon. C'était une remarque de bon sens. Herriot avait fait cette remarque, vous savez, le dirigeant radical. Alors Herriot, il avait plein d'envie, il était très cultivé, il était agrégé d'histoire, et par conséquent il connaissait bien la question russe et la question allemande du point de vue militaire. Il était très inquiet, mais le problème c'est qu'il n'avait ni les forces ni la volonté vraiment de faire autrement. L'eût-il eu d'ailleurs, peut-être lui serait-il arrivé ce qui est arrivé à Bartou. Donc Herriot a commencé en 1924. Il a reconnu l'URSS exactement pour ce motif. Bon, avec un autre en plus, parce que il était partisan d'un petit peu de commerce avec les soviets. Il s'est heurté à un mur, car on peut avoir une discussion sur l'interprétation. La discussion sur l'interprétation, c'est que on peut se demander si le refus de l'assistance soviétique, le refus de l'alliance de revers, reposait seulement sur un anti-bolchevisme résolu. Si vous voulez, la haine contre l'Union soviétique, on ne peut même pas imaginer ce que c'était. Si, c'est à peu près la même contre les salopards en casquette, donc on peut très bien imaginer finalement. Hein. Bon, la Banque de France, elle était déchaînée. C'est-à-dire que quand on parlait d'URSS et de commerce avec l'URSS, elle montait au créneau. Il faut voir quand même que la Banque de France, organisme fort distingué, n'appelait l'URSS que les soviets. Et ça se fait pas quand même, c'est pas très distingué. Donc, à chaque fois qu'il était question d'alléger les difficultés de la crise, elle disait, on va pas, impossible de commercer avec ces voleurs d'or, etc. Donc, la Banque de France menait la danse, comme disait d'ailleurs très bien l'ambassadeur d'Allemagne et ses divers acolytes et ses divers auxiliaires. Et, donc, on ne voulait pas, les milieux financiers ne voulaient pas de cette alliance. Mais quelques hommes politiques se sont obstinés. Je ne vous parle pas du peuple pour l'instant, je vous parle des élites, puisque mon sujet c'est les élites. Par exemple, Bartou, cet homme de droite, mais qui pensait comme avant 1914, qui avait le sens de la solidité des frontières finalement, hein. Bartou s'est mis à changer un peu d'avis, j'explique dans quelles conditions ça lui a coûté la vie. Vous direz, mais oui, c'est les Oustachis, pas du tout, c'est Berlin qui a décidé l'affaire. Et très vraisemblablement, je le montre évidemment parce que voilà une série d'énormités. C'est quand même Berlin qui l'a fait assassiner avec des Oustachis et Laval était dans le coup. De sorte d'ailleurs qu'il s'est retrouvé ministre des Finances dès le lendemain parce que les Allemands ont dit « Oh là là, celui-là on l'aime, on va le faire ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères tout de suite », ce qui a été le cas. On a donc signé avec l'URSS un chiffon de papier. Je montre comment c'était un chiffon de papier. C'est-à-dire que jamais il n'a été question, alors l'armée a joué un rôle, qui n'est pas non plus un rôle dirigeant, mais si vous voulez, elle a joué un rôle dans la partition. Il faut voir quand même les rapports de l'armée, il faut les rapports de cette armée pleine de morgue, qui ne supportait pas que des généraux fussent d'anciens laveurs de vaisselle. Parce que les généraux de l'Union soviétique étaient d'anciens laveurs de vaisselle pour un certain nombre d'entre eux. Et expliquer que ces crétins qui ne savaient qu'exécuter, qui savaient à peine lire, que ces crétins ne comprenaient rien à la guerre alors que nous, on n'avait rien à apprendre d'eux. J'ai l'air d'exagérer, vous verrez les rapports. Hein. Alors, on fait de l'histoire pas avec ce qui va suivre, mais quand même, vu compte tenu de ce qui a suivi, c'est assez savoureux. Donc les militaires ont mis leur grain de sel dans la partition. Mais les militaires ne sont pas fondamentalement responsables de ce choix. Hein. Pensez par exemple que Schneider, dans ses accords de cartel avec Krupp et Divers, avait accepté que Skoda n'eût pas de marché en Union soviétique. Donc c'était un accord de cartel, ce n'était pas de l'idéologie. Hein. Admettons qu'il l'ait fait par idéologie, enfin il l'avait fait en termes économiques. Donc il n'a pas été question. Vous me direz quand même on a failli. Puis finalement, si on l'a pas fait, c'est à cause de cette affreuse épuration de l'armée rouge, Tukhachevski. Alors, autre énormité, bon, je montre, je sais bien que l'Union soviétique a réhabilité Tukhachevski, c'est sa responsabilité, hein. Bon, a réhabilité tout de même n'importe qui. Mais je suis désolé, Tukhachevski ne méritait pas d'être réhabilité. C'est clair, c'est net, c'est dans les rapports militaires, et de manière croisée tellement ferme, j'ai failli faire s'évanouir un ancien soviétique il y a un an, quand je lui ai raconté l'affaire Tukhachevski, il ne croyait pas, il me disait le soi-disant complot. Je lui disais, cher collègue, parce que c'était un universitaire, c'est pas un soi-disant complot, je lui dis c'est un complot. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée rouge a négocié avec la Wehrmacht et a promis en plus de lui céder l'Ukraine. Bon, il voulait pas me croire. Je vous assure qu'en me disant, vous serez tenté de me croire. Hein? Bon. Donc, l'affaire Tukhachevski n'a rien changé. Elle a donné un nouveau prétexte. Puis alors, vous savez, il y a toujours des sortes de ravis, comme on dit, hein, dans le midi, qui viennent dire la vérité, mais personne ne les croit, on les voit fous. Alors, on avait quelques ravis, hein, qui étaient encore vivants. Il y en a un à qui je rends hommage, parce que moi je rends toujours hommage aux minoritaires, je sais pas si c'est une vocation. Palas, notre attaché militaire. Voilà un gars, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont laissé jusqu'en 1940 en Union soviétique. Il a passé son temps à sillonner l'Union soviétique, puis si vous voulez, on ne lui faisait pas voir des villages Potemkin, hein. Il se baladait, il voyait forcément, il avait des yeux, et on ne le guidait pas partout. Bon, quoi qu'on dise. Il voyait l'Union soviétique devenir de plus en plus puissante d'année en année, c'est-à-dire que, vous savez ce qu'il faisait? Il suivait les chemins de fer. Il voyait bien que d'année en année, les chemins de fer se développaient, que voilà, on se mettait à faire une deuxième voie dans le Transsibérien, alors qu'il disait d'ailleurs, on n'a même pas besoin de voie dans le Transsibérien, ils sont en train de construire une industrie telle qu'ils n'auront plus besoin des navettes entre l'Occident et l'Orient pour équiper leur armée orientale, c'est-à-dire l'armée qui devait intervenir contre le Japon, hein. Bon. Et donc il n'arrêtait pas de dire, et alors vous pensez ce que ça lui valait au haut état-major, il n'arrêtait pas de dire, mais finalement cette armée est bien mieux depuis l'affaire Tukhachevski. Bon, alors, il est resté, on ne sait pas pourquoi, mais heureusement pour l'historienne que je suis, puisque avant on s'en était pas servi, il a montré que l'Union soviétique était invincible. C'est-à-dire que si on venait mettre les pieds chez elle, on prendrait une déculottée. Et il disait... Mais on n'a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il faut passer une alliance avec elle. Il n'était pas le premier à le dire, hein, y compris chez les militaires. Vous pensez, les autres étaient en train de comploter parce que je vous ai parlé de la cagoule civile, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est encore une autre énormité, c'est qu'évidemment il y avait une cagoule militaire et qui la dirigeait, Pétain et Végan. Vous voyez, donc une paille. Donc vous imaginez comme ils préparaient l'alliance militaire avec les soviets, ces bonnes gens. Donc, bien entendu, il a tonné le pauvre malheureux dans le vide. On lui a fait beaucoup de misère. Mais on l'a laissé en poste, ce qui nous donne des informations très précieuses. Et donc, l'Union soviétique, elle a avalé toutes les couleuvres. C'était pas des couleuvres, d'ailleurs, c'était des bois. C'est pas parce qu'elle était particulièrement fière, c'est parce qu'elle avait le sens, je dirais, national, c'est-à-dire qu'elle se disait, elle était pas bête, elle non plus, elle était commerio. Elle disait, grand Dieu, si j'ai une alliance, bon... On peut supporter une guerre si j'ai une alliance. C'est-à-dire que si j'ai une alliance et que la guerre intervient, il y aura la moitié des troupes soviétiques et des troupes allemandes du côté occidental, il y aura la moitié chez moi, donc finalement, c'est jouable. C'est là-dessus que l'Union soviétique, et tout le monde l'a su à tabler, hein. Bon, évidemment, on l'a traité comme un cochon. On l'a particulièrement traité comme un cochon au moment de la guerre d'Espagne. On lui a fait avaler toutes les humiliations possibles. C'est pas grave, elle a continué à proposer. Bon. Entre Munich et mars 1939, c'était comme si l'Union soviétique était morte. C'est-à-dire que là, elle n'a même plus rien demandé. Hein. Je veux dire, avec le coup qu'on lui avait fait, parce que je ne vous l'ai pas dit ici, mais évidemment, et certains le savent, peut-être même tous, il y avait un accord tchéco-soviétique. Ce qu'il faut bien montrer, ce que je montre dans le livre, c'est que les Français s'étaient arrangés pour que cet accord fût strictement subordonné au leur, c'est-à-dire vide. L'accord tchéco-soviétique ne pouvait entrer en vigueur que si l'accord franco-soviétique entrait en vigueur. Les soviétiques ont passé 2 ans à dire aux tchécoslovaques, écoutez, laissez tomber, il n'y a rien à attendre des Français, ils ne bougeront pas. Et en particulier à commencer le forcing à partir de la remilitarisation de la Rhénanie. Laissez tomber l'aspect actuel de l'accord. Nous sommes pour un pacte bilatéral, vraiment bilatéral, c'est-à-dire qui fonctionnera même si le pacte franco-soviétique ne fonctionne pas. Les élites tchécoslovaques étaient dans une alliance telle avec les élites françaises qu'elles n'ont jamais pu faire ce calcul. Elles ne voulaient pas être sauvées par l'Union soviétique. Je le montre avec des archives sûres et croisées, et d'ailleurs, je dirais que ça ne pose même pas question, ce type d'archives. Hein. Il n'y a même pas besoin de les croiser, elles disent toutes la même chose. Et donc l'Union soviétique a aidé, elle a essayé, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a essayé, elle a réessayé à partir de mars 1939, c'est-à-dire à partir de la liquidation complète de la Tchécoslovaquie. Je le montre. Et je montre que jusque quasiment au dernier jour, elle a été fort sincère dans la volonté de l'Alliance. Quand je dis fort sincère, c'est que j'avance des éléments qui sont formels. À quoi je veux ajouter autre chose. Les Occidentaux avaient perçu en Union soviétique un tournant, non pas comme on le croit souvent en 1933, mais comme je le montre de manière formelle, au deuxième semestre 1932. C'est-à-dire qu'en 1932, l'Union soviétique a commencé à dire des choses sur le réarmement allemand qu'elle n'avait jamais dites. Tout le monde a compris dans les chancelleries ce que ça voulait dire. Et à partir de l'avenue d'Hitler au pouvoir, ça a été clair, net. À partir de ce moment-là, j'y insiste, j'ai pas déroulé un bottin, mais j'ai donné un certain nombre d'éléments formels. Qu'ont dit les diplomates et les militaires? Ils ont dit, c'est très simple, où nous allons offrir à l'Union soviétique l'accord, la reconstitution de l'entente dans les conditions militaires formelles de 1914, où elle sera obligée de passer un accord de compromis avec l'Allemagne pour gagner du temps, pour se réarmer. Parce que, à partir de 1933, tout le monde tablait sur une guerre dans les années suivantes et se disait que si l'Union soviétique était confrontée avec la perspective d'une guerre sur un front, elle ferait tout, quelle que soit l'année, pour différer cette guerre sur un front. Donc on le savait. Donc la thèse avec laquelle on a dindonné depuis le 23 août 1939 les populations de France et de Navarre, c'est-à-dire le thème du méchant traître, de l'ancien faux antifasciste qui s'était dressé contre la Pologne et qui était responsable de la mort de la Pologne, ce thème est un thème faux, inventé, dont les élites françaises savent qu'il est faux, puisque cette Union soviétique a signé, quand elle ne pouvait plus faire autrement que signer, et le responsable de la dernière farce, de la farce ultime, c'est-à-dire de la fameuse mission franco-anglaise à Moscou, qui s'est tenue du 11 août jusqu'au 25, enfin qui a été terminée avant, montre de manière formelle que Staline a commencé à signer d'abord le pacte économique, puis le pacte, alors qu'il avait obligation formelle de le signer, puisque les Français lui avaient fait parvenir exprès, sous forme de fuite, la correspondance de l'ambassade de France à Varsovie, par laquelle les Soviétiques étaient agonis d'injures, par laquelle les Polonais passaient leur temps à dire que les Soviétiques étaient des voyous, que jamais on pourrait passer d'alliance avec des gens comme ça, qui viendraient vous prendre le territoire, etc. De telle sorte que Staline et son équipe ont très bien compris qu'il n'y avait rien à faire, qu'ils pourraient faire les pieds au mur, passer sous la table, rien. Pourquoi? Parce que l'Occident voulait que la guerre commençât sur un front contre l'URSS. Bon. Donc il n'y avait rien à faire. Elle a donc signé, elle a été fort approuvée par un certain nombre de militaires, pas seulement par Churchill, par un certain nombre de militaires français qui ont dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et qui ont dit tout de suite, d'ailleurs il y a un accord sûr sur la Pologne, évidemment, puisqu'elle essaiera de pousser ses frontières de telle sorte que ça lui gagne une zone d'attente. Hein. Et voilà comment, voyez, là c'est pas depuis 70 ans, c'est depuis 67 ans, on explique aux populations que c'est traître né, comme disait Flandin, hein, mais Flandin le disait devant un agent allemand, c'était plutôt plaisant, que ces traîtres nés avaient signé avec les hitlériens. Donc l'Union soviétique a fait ce que... Je veux dire, si Staline n'avait fait qu'un geste raisonnable dans sa période de gouvernement, dans sa période de maîtrise de l'Union soviétique, ce serait la signature de l'accord de non-agression germano-soviétique. C'est formellement établi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute si cet afflux de... épouvantable d'archives arrive en même temps. Comment voulez-vous qu'il n'arrive pas en même temps? Pour que j'explique ce qui s'est passé sur le plan de la défaite, il fallait quand même bien que j'aille chercher des archives intérieures et des archives extérieures. Pourquoi est-ce que pour l'instant aucun chercheur n'a réussi, alors que beaucoup de chercheurs ont approché ce que j'ai dit? Pourquoi aucun chercheur jusqu'ici n'avait réussi à le faire? Parce que vous avez en histoire, en général, un compartimentage très net. Hein. Vous avez les spécialistes d'histoire intérieure, et les spécialistes d'histoire des relations internationales. Les spécialistes d'histoire des relations internationales ont passé leur temps à dire « Ah, on a quand même l'impression que les facteurs intérieurs ont joué beaucoup. » Durosel l'a dit, par exemple. Quant à ceux qui travaillaient sur les questions intérieures, ils ne se sont même pas posés la question extérieure. On pouvait continuer comme ça encore pendant 100 ans, hein, si on n'avait pas cherché les fonds. Ben, je suis allé chercher les fonds. Et par conséquent, c'est scandaleux, c'est affreux, ça remet en cause tout ce qui a été établi. Ben, vous en connaissez des choses. Il y en a plein de choses pour lesquelles on a remis en cause ce qui avait été établi. Et ce qui était établi était faux. Hein? Les Français étaient persuadés que c'était légitime, en majorité, les accords de Munich. C'était faux. Eh bien, si vous voulez, toute la période, toute la connaissance des années 30 repose sur des bases friables, tout à fait insuffisantes. Il faut aller regarder les archives pour reconstituer ces bases. C'est ce que je suis allé faire, et comme je suis allé mêler de politique intérieure et de politique extérieure, eh bien, j'ai multiplié les scandales. Mais, si vous voulez, il n'y a scandale que parce qu'il y a eu carence. C'est clair. S'il n'y avait pas eu carence, il n'y aurait pas scandale. C'est-à-dire que je n'aurais pas mis une révélation à la page. Par page. Hein? Parce que les choses devraient être connues depuis longtemps. Nous avons les moyens depuis longtemps de savoir un certain nombre de choses. Peut-être pas tout, parce qu'il fallait attendre 60 ans, mais beaucoup de choses. Nous aurions dû faire cette histoire bien avant. Il faut qu'on soit bien clair sur la question. La France était comme tous les empires à colonies. Elle savait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'elle aurait contre cet empire deux ennemis redoutables. D'une part, évidemment, le mouvement nationaliste qui laissait quand même des chances minces de maintien. D'autre part, les États-Unis. Car les États-Unis n'étaient pas anticolonialistes, les États-Unis voulaient la succession coloniale de leurs rivaux, et en particulier, ils voulaient bénéficier des matières premières dont leurs rivaux bénéficiaient parfois à titre exclusif. C'est-à-dire que, de manière plus ou moins brutale, tous ces États européens ont su qu'il faudrait un moment céder. Et ils ont su qu'ils étaient bénéficiaires d'un sursis plus ou moins grand. Pour la France, le sursis a été dans certaines sphères un peu plus grand. J'explique comment dans un ouvrage qui s'appelle « Les protectorats du Maghreb entre le débarquement et l'indépendance ». Mais c'était un sursis. Vous pensez bien que pendant ce sursis, les affaires continuaient. Et en particulier, il fallait ménager la redistribution des capitaux. C'est ce qu'ont permis les guerres coloniales. C'est-à-dire que, vous voyez, ces dernières années, on s'est beaucoup ému, on a bien fait d'ailleurs, hein, de cette armée qui conduisait la torture, qui était pleine de responsables plus ou moins sadiques, pas sadiques, sadiques, etc. Donc on a beaucoup parlé de la torture, on n'a quand même pas beaucoup insisté sur l'État qui avait permis qu'un certain nombre de sadiques ou non sadiques se fissent la main sur des populations colonisées ou sur des anticolonies ou sur des adversaires de la colonisation. On ne s'est pas interrogé là-dessus. Et pourquoi les États ont fait des guerres qui étaient des guerres perdues? Elles étaient menées pour être perdues, elles étaient menées pour gagner du temps et aussi pour fournir quelques marchés. Ça va de soi. Tout simplement parce que il fallait rapatrier les capitaux, et puisque vous citez la Banque d'Indochine, la Banque d'Indochine a commencé à redistribuer ses capitaux dès 1945-47. Elle a joué un rôle majeur dans les redistributions. Elle est allée se balader ailleurs, mais il fallait du temps. Ça lui a permis d'occuper une part absolument déterminante dans le trafic des piastres. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir des dossiers des renseignements généraux pour lesquels on m'a donné non pas ce qu'on donne souvent, c'est-à-dire des extraits, mais l'ensemble du dossier. Je suis donc allé quelquefois, et même quand je travaillais sur un dossier, je suis allé jusqu'à la fin du dossier. C'est-à-dire que je suis allé très au-delà de 1940 et même au-delà de 1945. Et je me suis aperçu que de manière systématique, les grandes banques en Algérie, en Indochine, avaient fait durer les guerres parce que ça permettait de ménager des compromis. Il faut que vous sachiez que la guerre d'Algérie a duré beaucoup plus qu'elle n'eût duré, parce qu'on a découvert du pétrole et parce que les grandes banques ont trouvé nécessaire de se ménager dans les agréments futurs une part essentielle sur ce pétrole. C'est comme ça. Ça n'est pas l'histoire qu'on fait. On a tort de ne pas faire cette histoire, car on ne peut pas faire l'histoire politique de la France sans savoir ça. Et on ne peut pas faire l'histoire des tortures en Indochine, comme on ne peut pas faire l'histoire des tortures en Algérie, si on ne sait pas pourquoi l'État français a maintenu ces tortures ou le droit à torturer pendant si longtemps. Pas simplement pour faire plaisir à des représentants de la Grande Mette. Non. Comment les élites qui avaient conduit ce pays à supporter 4 ans de guerre très dure, comment ces élites en sont progressivement venues à l'idée qu'il ne fallait pas se battre contre l'Allemagne, et puisque l'Allemagne voulait à tout prix se battre, qu'il ne fallait pas résister à l'Allemagne. Alors, je vais reprendre ce qui est l'exergue de mon livre, parce que c'est plus court et ça donnera un peu les enjeux. Marc Bloch, qui, vous le savez, avait fait déjà des découvertes qu'il avait beaucoup affectées quand il est allé reprendre du service, puisqu'il n'était pas obligé de le faire, qu'il a insisté pour refaire son travail d'officier. Marc Bloch a été versé dans une unité comme officier où il a découvert des choses qui l'ont énormément troublé. C'est-à-dire qu'il a eu l'impression que cette guerre était relevée d'un véritable sabotage. Puis il a entendu des choses, je le cite d'ailleurs à la fin du livre, bien entendu, qui l'ont épouvanté. Et puis vous le savez, Marc Bloch a été résistant et a fait à la fin de sa vie, enfin il ne savait pas encore que c'était la fin de sa vie, quelques semaines avant d'être assassiné par la milice, un petit article dans lequel il a mis en cause la trahison de Pétain. Pas la collaboration, hein, la trahison. C'est-à-dire l'intelligence avec l'ennemi avant la guerre. Et j'en ai tiré l'exergue de mon livre. C'est-à-dire qu'il a dit dans... peut-être bientôt connaîtrons-nous la vaste entreprise de trahison qui a cassé les alliances de la France et qu'il a livré à l'ennemi. Et il a mis en cause 5 groupes d'hommes. Les journalistes à la Brinon, les hommes politiques à la Laval, il a cité les repoussoirs, hein. Les hommes de main du genre 6 février, les hommes d'affaires du Creusot, il n'a cité que cela, c'est-à-dire Schneider, ce qui veut dire qu'il savait beaucoup de choses quand même. Et dernier élément, les militaires. Et il a pensé que les militaires avaient joué le rôle le plus important. Moi, je montre que les hommes, que l'économie a joué le rôle déterminant. Et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la règle absolue était que la France ne fut pas en situation de conflit avec l'Allemagne, non pas de conflit avec l'Allemagne, de conflit avec l'Allemagne qui mit en cause les paiements et le commerce dont j'ai parlé. Ce n'est qu'ensuite, et j'y insiste bien, lorsque la classe ouvrière a réagi, que est venue l'idée, bien entendu, que il fallait se débarrasser de cette résistance, mais j'insiste beaucoup, les plans de liquidation de la République sont des plans antérieurs, très antérieurs à 1936, je les développe, je les expose, et moi j'affirme que 1936 a différé ces plans. Il y aurait eu le fascisme en France avant si la classe ouvrière avait voulu se tenir tranquille comme elle s'était tenue tranquille en Allemagne. On a donc négocié sur le plan économique et financier d'une part. On a saboté le réarmement, j'explique comment, par exemple en 1935, je montre comment le ministre de la guerre, qui est un sbire de Laval, et qui d'ailleurs a fini par n'y trouver aucun inconvénient, constate que Renault ne veut pas faire de char. Il en faisait avant, mais il ne veut plus. Bon, et puis Schneider non plus, et puis les autres, et puis Brandt, etc. Ils ne veulent plus, ça ne les intéresse plus. Bon. Donc on ne réarme pas. Et le livre montre qu'on n'a pas du tout réarmé plus, ce qui est une légende très largement répandue, notamment d'ailleurs par un synarque, Alfred Sauvy, car Alfred Sauvy est un synarque, un grand recruteur de la synarchie administrative. La légende, c'est que, voilà, au fond, on aurait pu gagner sur l'Allemagne, mais on n'a pas eu de chance parce que, à partir de, il a fallu attendre 1938 la casse des 40 heures, parce que les ouvriers ne faisaient pas grand-chose jusqu'aux 40 heures, donc c'est à cause de ça qu'on ne réarmait pas. À partir des 48 heures, on aurait réarmé. C'est entièrement faux, et je le montre d'une manière formelle, c'est-à-dire garantie par la Banque de France. La Banque de France qui dit, ben, il n'y a toujours pas d'investissement industriel, il n'y a que de l'investissement spéculatif. Excusez-moi, l'investissement spéculatif, ça ne fait pas fabriquer des canons. Hein. Bon. Donc, on ne réarme pas, mais on fait plus que ça. On fait beaucoup plus que ça. On prépare des plans contre la République avec l'étranger. C'est-à-dire que mon livre montre comment ces plans de la synarchie et de la cagoule, ont été avancés avec des armes allemandes, italiennes, franquistes, avant la victoire de Franco, parce que naturellement, on a beaucoup fait pour cette victoire de Franco, dans ces milieux, y compris dans des milieux banquiers. Ils y sont parfois allés eux-mêmes. On trouve tel banquier qui a participé au sabotage des avions de Toussul-Noble. Hein, demanderez le détail si vous voulez. Et puis surtout, dans la phase finale, donc on ne réarme pas, on négocie. Car on sait que l'Allemagne va faire guerre. On négocie sans arrêt. Et au moment final, vous savez bien, puisque l'Allemagne se jette contre la Pologne, il faut bien faire semblant de lui faire la guerre. Ben, vous savez, pendant la guerre, ce qu'on fait, on négocie avec elle. Moi, j'ai un chapitre là-dessus, ou un bout de chapitre sur les négociations. Hein? C'est-à-dire, en gros, bon, on va faire comment? Pour se faire vaincre, mais bon, sur quel compromis vous nous proposez? Hein? Comment vous allez faire? D'ailleurs, évidemment, les Allemands ont un peu menti, hein, parce qu'au début, ils ont promis plus qu'ils n'ont réalisé. Et finalement, on n'a pas fait la guerre, vous verrez, parce que évidemment, ce que je dis est énorme, vous comprenez. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on s'est présenté mon projet à l'éditeur et que je lui ai dit quel titre je voulais mettre et que j'ai dit le choix de la défaite. Mais la directrice éditoriale a eu un haut cœur. Hein. Ce que je montre des négociations, ce que je montre de l'investissement de l'appareil d'État par des hommes qui avaient passé compromis avec l'Allemagne, qui voulaient un compromis économique avec l'Allemagne et qui voyaient dans l'Allemagne le meilleur modèle économique et social et la meilleure pression militaire, évidemment, par l'occupation qui permettrait de régler définitivement la question des salaires, ce que je dis là démontre que par un processus qui a été relativement long, mais qui a pris des formes aiguës à certaines étapes chronologiques, c'est-à-dire qui ne relève pas seulement de la routine. Les élites françaises, dirigées non pas par les hommes de main, non pas par les hommes politiques, non pas par les journalistes corrompus, non pas par les militaires, mais par les hommes d'affaires, que ces élites ont décidé de la défaite de la France parce que, après l'échec de tous les projets dictatoriaux dont j'ai parlé, il ne restait plus qu'une solution, que d'ailleurs certains grands patrons avaient annoncé à leurs ouvriers, et pas de manière, je dirais, purement sarcastique. Quand Hitler viendrait en France, messieurs, quand Hitler viendra en France, vous serez plus tranquilles. Eh bien, nos élites ont décidé qu'Hitler viendrait en France. C'est-à-dire qu'il aurait été bon, je dirais, ou plus logique, qu'un historien commença par ce livre et termina par l'histoire de la collaboration économique. Ça n'a pas été possible à cause des questions d'archives, hein, puisqu'il a fallu attendre les 60 ans pour avoir un accès plus grand aux archives des années 30. Mais, alors me direz-vous, c'est une énormité. Forcément, vous vous trompez, parce que vous dites une chose tellement énorme que c'est pas possible. Bien entendu, on l'aurait su. Alors, je me suis attendu à cette objection, qui, il est vrai, au terme de mon livre, ne vaut plus, mais quand même, je suis très scrupuleuse. Donc, j'ai fait une conclusion et un épilogue. Et dans l'épilogue, j'ai expliqué au lecteur pourquoi lui-même, ses parents et ses grands-parents n'ont rien su. Et en particulier, pourquoi ses parents et ses grands-parents n'ont pas su. Tout simplement parce que le jeune étagoliste s'est bien arrangé pour que rien ne fût connu de la population française. Nous étions dans la sphère d'influence américaine, par conséquent dans la sphère de maintien du statu quo économique et social, certes. Même s'il y avait une révolution, elle serait écrasée dans le sang. Il y a des sens, hein. On a le cas grec, on le connaît. Mais tout de même, imaginez, d'abord ça aurait peut-être été difficile, imaginez ensuite que la population française, dont 60% avait perdu en moyenne 12 kilos, 12 kilos hein, quand même les ouvriers employés, ils ont perdu de 40 à 44, hein. Imaginez que la population française pût apprendre ce qu'on lui avait réservé. Elle aurait été beaucoup plus colérique que finalement elle ne l'a été. Donc le gouvernement de Gaulle, il a fait un coup d'éclat. Il a fait exécuter un homme de la synarchie, un seul, Pierre Pucheux. Et encore, il a mis ça sur le dos des communistes, parce que comme Pierre Pucheux s'était conduit, comme certains savent ici, contre les communistes, on a dit, bah, c'est la pression des communistes. Pas du tout. C'était pour avertir les Anglais et les Américains que ça commençait à bien faire, hein, parce que Pucheux s'était mis d'accord avec les Américains. Comme les Américains voulaient faire un Vichy sans Vichy, ils voyaient Pucheux, Giraud, Pucheux, etc. Donc De Gaulle les a prévenus, il leur a dit, par cet avertissement, ça a été très clair, moi je le montre par les archives contemporaines, hein, il leur a dit, messieurs, pas trop, hein, quand même. Et après, on n'a plus touché à ces hommes. Et vous savez ce qu'on a fait pour ne plus toucher à ces hommes? Il y avait quand même évidemment des choses qui s'étaient accumulées au fil des années. Donc par exemple, les griefs contre eux, les chefs d'accusation, qui étaient non seulement la collaboration, mais l'intelligence avec l'ennemi, ce qui est bien plus grave, hein. Parce que on peut dire, bon, on les a, qu'est-ce que vous voulez, faut faire avec, hein. Mais quand on les a amenés, c'est quand même une autre chose. Donc, il y avait d'une part l'article 75 et suivant du Code pénal, qui régissait et punissait l'acte de haute trahison, d'intelligence avec l'ennemi, et puis il y avait le 87, qui punissait la collaboration. Et bien, vous savez comment on a fait? On a fait disparaître le premier tout de suite, et le deuxième un peu après. Et ces hommes sont restés. Mais c'est vrai, je veux dire, je n'ai rien inventé. C'est vrai, mais on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce qu'on n'avait pas accès aux sources ou accès insuffisant aux sources. Ça y est, tout le monde est rassuré, on a accès aux sources. Par conséquent, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit le plus intégral, ils vont aller regarder les sources et ils vont aller dire qu'Annie Laquaris dit des bêtises, je les attends avec beaucoup d'intérêt. Et je me contente d'aller faire des années d'incursion dans des archives, de sources extrêmement diverses, de les croiser, les archives sont atroces, ceux qui font de la recherche ici le savent, ceux qui n'en font pas, il faut qu'ils en soient bien conscients, les archives sont épouvantables, et vous n'avez une vision édulcorée de l'histoire que parce qu'un certain nombre d'historiens acceptent de ne pas les voir, de ne pas les croiser, et même parfois de les voir de moins en moins, et par conséquent de n'avoir même pas le problème de les croiser. Voilà la réalité. Des historiens de très grande valeur avaient fait de l'histoire du temps présent, en particulier les historiens anglais qui se sont occupés de la chose pendant la guerre et qui avaient démontré avec des pièces officielles tout ce qui arrive aujourd'hui sous forme de révélation, tout simplement parce que les archives sont des archives nouvellement révélées. Alors, la deuxième question que vous évoquez, c'est une question qui nous provoquerait, vous vous en doutez, un débat au moins aussi long. Bien entendu que la similitude avec ce qui se passe aujourd'hui est frappante. Alors vous dites la petite bourgeoisie, les élites intellectuelles. Bon, du point de vue des élites, c'est la même chose. Je dirais que du point de vue des élites intellectuelles, mon sentiment personnel serait que la situation est plus grave qu'elle n'était en 1940. Je veux dire, dans ma discipline, je l'ai dit, puisque j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « L'histoire contemporaine sous influence », je considère que l'histoire est en posture de dépendance à l'égard des élites dirigeantes plus grande qu'elle n'était en 1940. Mais s'il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui ne paniquent pas et qui font beaucoup paniquer ceux qui paniquent. Eh bien, vous avez entièrement raison. Oh. Il faut les empêcher de nuire.
Ben oui, mais comment?
Ah ben, il faut reconstituer un mouvement qui soit en mesure de les tenir en respect.
Mais si,
il y a des militants, il y a qu'à reconstituer les organisations. Je suis désolé, mais de toute façon, c'est pas la peine de se mettre la tête sous ça si on ne le fait pas.
Oui, c'est sûr.
C'est ça la question.
Ça aurait été intéressant pour la discuter beaucoup plus, parce que justement, moi je trouve que là, on est à un moment où on s'est vraiment plus. Moi, je sais pas si je vais voter, quoi. Même là,
ah ben, on ne sait pas si on va voter, compte tenu de ce qu'il va y avoir à voter,
voilà.
C'est pas évident.
Ben oui, donc...
Ça veut dire qu'il va falloir agir autrement.
Oui, oui.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?